Retrouvez dans un instant l'écrivain Antoine Wauters à la librairie Ombre Blanche, jeudi 21 septembre 2023, à l'occasion de la publication de son nouveau livre, Le plus court chemin, aux éditions Verdier. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, merci d'être là, très nombreux. Ça fait très plaisir en ce soir de match. On était en train de dire justement avec Antoine et Hélène que le chemin le plus court faisait Hélène disait que ça lui faisait penser au livre de Marielle Massé qui s'appelle Respire. Et effectivement, elle a raison, je crois. Le plus court chemin est un livre qui offre une respiration. Alors dans la rentrée littéraire, mais il y a de très bons livres dans la rentrée littéraire comme chaque année. Mais une respiration dans le sens où... Peut-être qu'on va commencer par là où on s'est arrêté l'année dernière, puisque Antoine est venu au mois de septembre l'année dernière pour présenter Mahmoud ou la montée des eaux. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. Se souvient que vous aviez dit que, ce à quoi vous aspiriez, c'était à enlever des mots, à vous alléger d'une partie de la matière qui faisait votre travail. Et Mahmoud ou la montée des eaux était déjà dans sa disposition littéraire un peu comme ça. Et effectivement, la surprise est belle de voir arriver le chemin, le plus court chemin, où, voilà, qui est fait comme ça, de un peu plus de 200 pages, de fragments qui n'excèdent pas deux pages. Un recto, un verso, il n'y a jamais plus, c'est souvent moins. C'est un livre qui fonctionne en éclats, en kaléidoscope, en puzzle. Il y a un moment où vous utilisez l'image du puzzle. Peut-être on va commencer voilà, là où on s'est arrêté, sur cet allègement et cette belle surprise. Et si cette surprise aussi de la... Vous n'êtes pas allé dans la matière même du roman, de la fiction en tout cas, puisque c'est un livre très, très personnel. C'est un livre qui va nous ramener à l'enfance dans un petit coin de Belgique, Fréture, le nom du petit village. Un livre qui se déploie. Moi, j'ai eu l'impression sur trois axes, l'enfance, l'écriture et la nostalgie de quelque chose. Mais c'était peut-être un petit peu vers ça qu'on va aller... qu'on va aller ce soir. Donc, pourquoi ? Alors, où est-ce qu'on en est de cet allègement de la matière ?
C'est vrai qu'on s'était quitté là-dessus il y a un an sur cette histoire d'allègement de textes qui. Alors, l'allègement, c'est pour moi laisser une place au silence. C'est alors d'où les blancs qu'il y a sur les pages qui entourent chaque vignette de texte. Le silence est important, à mon avis, pour plusieurs raisons, mais dans ma vie, dans mon parcours, il est lié à une sorte d'héritage. J'avais un grand-père qui était particulièrement silencieux, en tout cas à la fin de sa vie. J'ai l'impression, en vieillissant, qu'il m'a transmis cette chose-là, un désir, un souhait d'en dire moins. Mais il se trouve que tous les matins, je me réveille quand même encore avec l'envie d'écrire. Alors comment écrire avec cette envie de silence qui est là en même temps et qui grandit ? Je me suis dit que ce texte-ci, j'avais envie d'essayer effectivement d'enlever des choses, de laisser de la place aussi aux lecteurs, aux lectrices, parce que c'est un texte qui parle de l'enfance, qui parle de mon enfance. Mais le souhait que j'avais, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais essayer quand même de le publier, c'est que j'avais le désir que ça puisse agir comme des miroirs qui pourraient révéler à ceux qui me liront, ceux qui me liraient éventuellement, des bribes de leur propre enfance. Et pour ça, je me suis dit, la tentation était là au départ de faire un texte qui aurait été plus unifié, plus proche du roman d'ailleurs. Et j'ai eu le sentiment très vite que c'était artificiel. Et je me suis dit, c'est un pacte, comme toujours, quand on commence un livre et puis qu'on le propose à son éditeur, à moi, à mes éditrices de chez Verdier, le pacte, c'est ça, c'est de se dire quelle place est-ce que je laisse aux lecteurs, aux lectrices, comment est-ce que eux, ils peuvent cheminer dans ce texte et dans ce puzzle que j'ai construit, fait d'éclats, de fragments et donc d'instantanés qui révèlent des moments de ma vie.
Vous voulez bien nous en lire quelques fragments ?
Bien sûr, oui, oui.
Merci.
Je peux peut-être lire celui d'ailleurs où il est question du silence. Le son que vous allez entendre, ça commence par « je pense à son silence ». Il est question de mon père qui, à mon âge, quand il avait 40-41 ans, lui qui était banquier et qui avait une vie professionnellement extrêmement remplie, comme je crois beaucoup d'hommes dans les années 80. C'était cette espèce de dogme qui consistait à se lever très tôt, à partir, à aller travailler et à ramener de l'argent, au détriment de beaucoup d'autres choses et de beaucoup de valeurs qui sont importantes à mes yeux, et notamment la famille, les enfants. C'était quelqu'un qu'on voyait très très peu, mais qui, à l'âge de 40-41 ans, a fait une vraie dépression et qui est resté enfermé, il en sortait, mais enfermé quand même, dans le petit garage qu'il avait fait construire à l'arrière de la maison. Et là, il a commencé à sculpter. Il est devenu sculpteur, le temps de se guérir, de se soigner, et puis de retrouver une respiration propre. Et il a recommencé à travailler. Donc son silence, c'est le silence de mon père ici. Je pense à son silence dans son garage, puis au silence de Pépé, qui se délesta des mots au fil des ans pour finir mutique. Chez lui, l'apparition d'un mot a toujours fait figure d'événement. On aurait pu noter d'une croix dans son petit farceur les jours où il parlait. Question. Poursuit-on par nos propres silences des silences entamés plus tôt ? Y a-t-il une communication invisible des silences ? Dans quelle mesure sommes-nous ou non l'amplification des fatigues, blessures et nœuds de nos ancêtres ? Quels sont les paysages du fond de la parole ? Que voit-on qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler ? Et d'où me vient cette impression, par l'écriture de ces lignes, que je poursuis ton propre silence, Pépé. Voilà, un de ces instantanés. J'en lis d'autres ?
Oui, wow.
D'accord. C'est un texte où on peut piocher, où il y a différentes tonalités, je crois. Quand il n'y a pas école, j'embrasse prestement mes parents, j'enfile mes vieux habits, et je vais jouer. C'est une phrase magique. Tu fais quoi aujourd'hui ? Je vais jouer. Et maintenant, quoi ? Je vais jouer. Et ce soir, si je pars avec papa ? Rien, je jouerai. Je ne me remettrai jamais de ces jeux sérieux si typiques de l'enfance, dans lesquels on jetait nos forces et dont rien ne nous détournait. Des jeux qui ne nous divertissaient pas, pas plus qu'ils ne nous amusaient, mais qui nous confisquaient, qui étaient... Une vie placée sous le signe d'un dieu représenté par des curés, omnipotents et profiteurs, qui mangeaient indifféremment sur le dos des morts, des jeunes mariés, des communiants, des baptisés, et des morts encore. Une vie placée sous le signe d'une nature immense, de kermesse à répétition, d'alcool, et de ce bienheureux ennui dont je me sens si souvent orphelin aujourd'hui. Tout vient de là, du silence des plaines, de tout, ce qui se tramait en nous, pendant que, objectivement, il ne se passait rien. Encore un ? On est bien, hein ? J'aimerais trouver celui sur les malheurs de Sophie, d'ailleurs. Mais je ne sais plus où il se trouve. Mais j'en ai un, sinon, si jamais. Parce qu'un franc était un franc et qu'une des expressions préférées des parents était « nous ne sommes pas Rothschild », on dessinait au verso des documents officiels que papa ramenait de la banque des Bristol au bord tranchant recyclés en feuilles de brouillon. Sur le verso, nos créations, de l'autre, crédit court terme et points de vente actifs dont s'occupait papa dans sa vie diurne. De sorte que maman, à la façon des mères, c'est-à-dire sans en parler et avec une infinie discrétion, nous a appris que l'art se pratique au dos du monde, toujours, et que l'envers est l'endroit le plus précieux. Voilà.
Merci beaucoup. Il y a quelque chose, moi, il me semble, enfin, ça m'a sauté au visage, c'est que sur les fragments sur l'enfance, c'est ce qui est à l'œuvre, c'est non pas de faire émerger un souvenir d'enfance, mais de régénérer un état d'enfance. Et qui, j'ai l'impression que vous cherchez à le communiquer aussi au lecteur. C'est-à-dire, l'état d'enfance, c'est voilà, c'est ce que le lecteur va pouvoir aller puiser dans sa propre expérience aussi, dans sa propre, dans son propre vécu de l'enfance qu'il a eue. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment à l'œuvre dans le.
Ouais. Et puis, en fait, ce que j'ai essayé, je crois, de faire dans ce livre-ci. Il y a plein de façons d'envisager un projet où on essaye de se reconnecter à son enfance. C'est pas évident, c'est pas forcément évident. Mais ce que je n'avais pas envie de faire, c'était de parler de faits, de dates précises, d'événements qui se seraient passés. J'ai le sentiment, pour avoir écrit pendant, ça fait maintenant une vingtaine d'années, que j'écris pratiquement tous les jours, et donc que ma vie, elle est en partie une vie incarnée, où on peut me voir, avec qui je peux parler, je peux avoir une certaine identité, plus ou moins, vague, flottante, mais une sorte d'identité quand même. Mais par contre, l'essentiel de mon temps, et je pense la plupart de mes intensités les plus belles, elles se sont jouées là, dans l'espace de l'écriture et dans l'espace du texte, dans l'espace de la lecture. Et donc je me suis dit très vite, essaye de ne pas parler des faits, mais de ça, de ces intensités qu'on a, je crois, toutes et tous connues quand on était enfant, mais qu'il va falloir aller rechercher par le seul outil dont on dispose quand on est devenu adulte, c'est le langage. Donc il y a une entreprise qui est un peu ironique, c'est aller rechercher le temps presque d'avant les mots, d'avant l'accession au langage, par le seul outil dont on dispose une fois qu'on grandit, c'est le langage. Et le livre tourne autour de ça, cherche. Il n'y avait pas d'idée préconçue. Je ne cherche à rien prouver, à rien démontrer. Je ne dis pas que c'était mieux avant, même si c'est un texte nostalgique. Mais simplement essayer d'aller recontacter en moi, et j'espère chez les gens, ça, cette lumière-là. Cette lumière qui est une lumière très vive, très belle, mais qu'on oublie. Je pense parfois que l'enfance est comme un continent à la dérive. On a été enfant, ça nous a marqué, et pourtant, chaque jour passe et on a l'impression qu'on s'en éloigne. Et quand je repense au début des années 80, j'ai l'impression que c'était un tout autre monde. Voilà, donc j'ai essayé de m'en rapprocher.
Et en même temps, ces fragments d'enfance, on a l'impression qu'ils sont... que l'enfance est sursignifiante. C'est-à-dire que un exemple, là, ce qui me vient, c'est les moments avec la grand-mère et les crêpes, où elle vous disait tu peux les sucrer à volonté. Ouais. Et ça, en fait, ça, c'est juste l'exemple de la crêpe. Il vient nous dire aujourd'hui, eh bien que c'était une famille de peu, que voilà, il y a tout le contexte qui jaillit de cette expression de la grand-mère, de la crêpe, et voilà. En fait, là, la crêpe, elle est sursignifiante. Enfin, le sucre sur la crêpe est sursignifiant. Et l'enfance est faite. J'ai l'impression qu'elle est faite de ça dans ces pages.
Oui, bien, c'est. Est-ce qu'on. Je m'étais posé la question d'ailleurs pour écrire Marmoud ou la montée des eaux, texte qui parle de la Syrie aujourd'hui, de toute l'histoire de la Syrie. Je fais un geste vers le bas parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas écrire un texte qui parlerait de toute la Syrie, de toutes ses dimensions géographiques, de ses frontières, de. Je me suis dit non, pars d'un lieu très défini et creuse-le. Et ici, de la même manière, en tout cas d'une manière assez similaire, je me suis dit, pars du très ordinaire. Et je crois que quelquefois, quand on part et quand on soucie du très ordinaire, l'extraordinaire finit par se produire, par se montrer. Donc, plutôt que de parler de façon objective, mais même pas, en tout cas d'essayer d'être précis dans la description du type de famille qu'on était sur le plan socio-économique, je me suis dit, c'est pas une piste qui, moi, m'intéresse. Laisse le sentir, essaye de le faire passer à travers des détails, ce qui semble être des détails. Voilà, le fait, je trouvais dingue que ma grand-mère puisse nous dire, j'ai fait des beignets aux pommes, vous pouvez les sucrer à volonté. Ça dit tout. Ça dit que le reste du temps, c'était pas le cas. Donc là, on en profitait et c'était magnifique.
Après, on peut aussi. Il y a un moment où vous dites, je ne vois que de la clarté quand je repense au passé, comme si la vie courait le jour d'une lumière vive.
Alors, sous le jour.
Ouais. Ouais, sous le jour, pardon. Et alors que souvent, l'exercice de ressouvenance, il provient d'une obscurité. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène inverse. L'enfance est une clarté.
Absolument.
Et une léthargie. Il y a un moment où vous dites comment vous volez. Je l'avais noté, c'est.
Non, mais c'est sûr que c'était pour moi, ce sont des moments de grande clarté. Et en même temps, j'étais un enfant déjà très nostalgique. On a l'impression que la nostalgie est d'ailleurs aujourd'hui un mot un peu à bannir, que quand on est invité dans des radios où le temps de parole est limité, où ça va très vite, il ne faut surtout pas dire qu'on est triste ou qu'on est nostalgique ou mélancolique. Ça, ce sont des mots à proscrire. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a écrit un papier sur le bouquin et qui dit, mais une sorte de une volonté de rassurer les lecteurs, ce n'est pas un livre nostalgique. Et moi, je lui dis, mais c'est un livre très nostalgique, très, très nostalgique, mais je dirais que si je dois nuancer un petit peu, ce serait une nostalgie agissante, c'est-à-dire une nostalgie qui ne nous enferme pas dans l'idée que tout est pourri aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien à espérer, rien à attendre. On vit, évidemment, avec ce sentiment parfois crépusculaire que demain ne sera pas meilleur. En quoi c'est peut-être d'ailleurs la fin de l'époque moderne, où on avait l'impression que l'évolution humaine amenait du mieux. Je crois qu'on en est revenu de ça. Mais nostalgie agissante, parce que je crois qu'à se ressouvenir, se reconnecter à ces petits gestes anciens, à ces savoirs anciens, à la façon que nos grands-parents avaient de manier une faux, une serpe, une bêche, ce genre de choses, et même simplement le fait de dire ces mots-là, ça me donne une sorte de supplément de souffle, de vie et de joie. Et donc je me suis dit, écris ça, juste ça. Je souffre terriblement du sentiment que les choses s'accélèrent, qu'on n'a plus l'occasion de se poser nulle part et d'être présent à ce qu'on est censé être et censé faire. Voilà, écrire, c'est parfois poser des mots anodins sur le plateau constamment oublié de la balance, le plateau du silence, du peu, du rien, du manque, et voir ce que ça peut générer. Je fais une longue réponse.
Il y a une formule que je trouve vraiment merveilleuse à la fin d'un fragment. La nostalgie, c'est un applaudissement du passé. Dans une main, il y a des larmes. Dans l'autre, beaucoup de joie. Voilà, ça résume exactement vraiment le ce qu'on trouve dans les pages là. C'est-à-dire cette dualité-là.
Oui, ben oui, c'est pas... je valide la formule. Mais je crois que c'est ça. C'est pour ça que quand vous disiez l'enfance lumineuse, oui, bien sûr, c'est ça. Mais je dis aussi dans le livre que ce qui est compliqué parfois, c'est de se réveiller du souvenir. C'est qu'il y a un grand bonheur à écrire un texte comme celui-là, parce qu'on se dit que tout n'est pas mort, que mes grands-parents ont disparu, que je ne peux plus entendre, que je ne peux plus toucher. Par cette espèce de miracle de l'écriture et du langage, ils sont là, ils sont autour de moi. Mais néanmoins... Oui, ça reste une expérience qui est pas c'est pas toujours simple, et c'est pas toujours simple de se reconnecter à des moments qui étaient très très beaux, très très vrais, très très intenses. Et donc j'ai le sentiment parfois quand je relevais la tête et que j'arrêtais d'écrire ce texte, que c'était encore plus difficile de vivre dans le présent. Et donc je retournais à l'écriture du livre avec cette idée que je devais transformer ça, je devais transformer cet état parfois un peu défaitiste, parfois un peu, oui, mélancolique, et essayer d'en faire quelque chose d'autre, pour essayer de donner aussi, à partager, voilà, un petit quelque chose.
Alors, il y a trois fragments, j'aimerais bien, du coup, que vous nous lisiez, puis après qu'on en discute, qui sont, moi, j'ai l'impression, un nœud comme ça du livre.
C'est marrant parce que les rencontres ne sont jamais les mêmes. Les libraires me disent toujours, ça, c'est, à mon avis, c'est le tournant du livre.
Ah bah tiens.
Et je constate que ce tournant n'a jamais encore été évoqué. Donc c'est formidable. Mais c'est en tout cas... ouais. Là, j'évoque, dans le premier que vous allez entendre, j'évoque le fait que je suis un père qui voit assez peu ses enfants, puisque on s'est séparés, leur maman et moi, il y a 7-8 ans maintenant. On est entre nous, donc je peux le dire, on est en toute intimité. Et c'est vrai que le livre parlant de ce sentiment de fracture, j'ai eu besoin de l'écrire dans un petit texte. Les années 80, avant que la vie prenne la forme d'une farce, la farce d'être un père qui vit loin de ses enfants, la farce des familles soufflées par les vents de la discorde, la farce de gosses projetés dans de nouvelles maisons, territoires dont on ne sait rien, week-ends et semaines qui nous échappent et nous échapperont à jamais. Que font-ils quand on ne les voit pas, quand ils passent de l'autre côté? Que devient leur vie quand on les parachute derrière la sinistre ligne de la discorde? D'un côté, il y a ce que l'on connaît et ce que l'on sait d'eux. De l'autre, il n'y a rien. Visible et invisible ne communiquent plus. Notre vie est coupée en deux. Fraiture, le nom du village. Fractura, friche, fracture. Autrement dit, nous qui formions un tout vivons à présent dans des lieux séparés. Notre corps lui-même est un lieu séparé. Ce que nous avons formé avec les autres, ainsi qu'avec nous-mêmes, avec les arbres, tout s'est défait. Ne reste que des bribes. Nous flottons. Notre sentiment d'impuissance, l'impression que la douceur est à jamais partie, la sensation de fracture, d'effroi, tout. J'ai le sentiment que tout s'est mis à tourner de travers à la mort de Papou, Pépé, puis Mémé et Nénène, dans cet ordre-là. Comme s'ils étaient le soubassement d'un temps où subsistait du calme et qu'ils nous protégeaient avec ce peu qui était leur tout. Je parle de leur cache-poussière, de leur paletot, de leur maudit bac de géranium, de leurs pantoufles fourrées et du fait qu'ils possédaient tellement peu de choses qu'on ne pouvait penser à elles sans aussitôt penser à eux.
Je trouve que vraiment, on a ce moment de bascule entre passé et présent, qui est parce qu'en fait, vous écrivez le passé, mais en même temps depuis l'aujourd'hui aussi, parce que l'autre grand pan qui habite ces fragments, c'est de parler, et on va en discuter un peu aussi, de la question de l'écriture, de comment vous vivez dans les mots et par les mots aussi au quotidien, et de fait aujourd'hui, et comment c'est l'aujourd'hui qui fait jaillir aussi le passé, j'ai l'impression.
Oui, c'est aussi un texte où je crois que c'est un peu un texte en forme de bilan. Ça vaut ce que ça vaut, hein, comme idée, comme point de départ. Mais j'ai vraiment éprouvé le besoin, après avoir écrit un certain nombre de livres qui ont été estampillés romans, donc un certain nombre de fictions, je me suis dit, j'ai vraiment besoin... À notre époque, alors qu'on sent et qu'on sait tous que la maison, la grande maison, est en train de brûler, et qu'on le voit, qu'on le sent, que ça génère en nous beaucoup d'angoisse, je me suis dit, j'ai plus envie de descendre dans ce lieu-là de la fiction, j'ai envie de parler de mon environnement direct, de notre environnement direct, pour essayer de retrouver une sorte de... Alors ça semble naïf, dit comme ça, mais une sorte d'amour du réel, un amour des choses qui m'entourent. J'ai constaté que quand j'écrivais des romans, des fictions, j'étais pas du tout disponible aux gens qui m'entouraient, à mes proches, à moi-même. J'étais complètement accaparé par l'écriture. Et ici, pour la première fois, et j'ai vraiment vécu ça avec un vrai bonheur, j'ai l'impression que l'écriture et la vie ont été plus ou moins réconciliées. Jusque-là, quand j'écrivais un livre, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas vivre. Que je devais me consacrer entièrement à ça. Et ici, j'ai arpenté les lieux de l'enfance, j'ai été questionner mes parents, j'ai retrouvé des lettres qui m'ont écrites, que je leur ai écrites aussi d'ailleurs. Et j'avais l'impression que je ne me coupais pas du tout de ça. Et à une époque où on sait que, pas seulement les jeunes, mais nous aussi, on passe des heures à regarder un écran de téléphone qu'on tient donc pour une sorte de nouveau réel, quand tout le reste du réel brûle ou fond ou se déglingue ou voilà, je me suis dit peut-être qu'on peut essayer, alors avec des moyens dérisoires qui auront toujours moins d'incidence qu'un discours politique, encore que, peut-être qu'on peut essayer de tracer dans ces chemins, dans cet environnement en tout cas très sinistre, quelque chose qui nous permettrait d'avancer autrement et de nous rappeler que ce réel-là, il compte, qu'il n'y a rien d'autre. Nos proches, les lieux, l'amour et le manque. Et essayer de composer avec tout ça. Alors, c'est vrai que peut-être que vous avez cette possibilité d'être connecté davantage à un environnement, à des proches, à tout ça, à ce que j'appelle le réel. Mais je crois que l'activité de l'écriture, c'est tellement particulier, c'est tellement ironique, c'est tellement ambivalent que parfois, je pense qu'il faut faire tenter des choses différentes. Et moi, j'ai éprouvé vraiment ce besoin-là. Je me suis dit, je ne veux plus tourner le dos à tout ça qui compte. Au point que si on me disait, ou si on me dit encore maintenant, un ami m'appelle, me dit « j'ai besoin de toi pour déménager », je pense qu'il y a 5 ans, je lui aurais dit « j'écris ». Ce qui est terrible. C'est terrible. Et je me souviens que pendant que ma grand-mère, que j'appelle Nénène, était vraiment sur la fin de sa vie, j'écrivais un livre. Et je pense que ça a modifié ma manière d'être avec elle dans les derniers mois de sa vie, parce que j'étais pris par ça et je m'en suis voulu terriblement. Et ça, j'ai envie que ça change. Alors peut-être que ça générera moins de texte, peut-être que j'écrirai moins, peut-être que j'écrirai encore avec plus de blanc, plus de silence. On se donne rendez-vous dans 3 ans, on verra ce qui reste de mots sur la page. Mais je pense que quel que soit notre niveau d'adhérence au réel, en fait, c'est peut-être quand même très utile parfois de se dire je fais une pause, je m'arrête et j'essaye de replacer les curseurs là où peut-être ils doivent être mis et de se relier à ce qui compte. Il n'y a pas grand-chose qui compte. Hein. Un livre, ça ne compte pas beaucoup. La promotion d'un livre, ça ne compte pas beaucoup. Un prix littéraire, ça ne compte pas beaucoup non plus. Donc, voilà, on vieillit, le temps passe et il faut, je pense, essayer de vivre ça le mieux possible.
Et est-ce que l'écriture du plus court chemin a été aussi une façon d'aller contre l'accélération du monde ?
Oui.
Parce qu'il y a des notes comme ça, de ça et là, sur l'accélération du monde, sur le... Ouais.
Il y a un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a écrit sur ce phénomène d'accélération, sur le concept de résonance. Il a écrit un nouveau livre qui s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Il y aurait beaucoup de choses à dire et lui le dit avec son langage de philosophe, de sociologue. Moi, ça me parle terriblement. Et je pense que ce texte-ci, c'est presque une version poétique, littéraire, de sa pensée à lui. Et c'est si la vertu de ce livre-ci, mais des livres en général, pour ne pas parler de mon cas seulement, ça pouvait être juste ça, de nous dire déjà, on a le droit de lire à notre rythme, de nous arrêter, de passer une page, d'en corner une autre, peu importe. Mais juste, le micro, je crois, a cessé de fonctionner, je sais pas. Non, ça va ? Juste pouvoir se dire que le temps, c'est nous. C'est nous, normalement, qui pouvons le conduire, alors que la plupart du temps, on est malheureusement brinque-ballé d'un lieu à un autre, d'une action à faire à une autre. Et à nouveau, quand j'écrivais le livre, je portais, de façon un peu fétichiste, les vieilles chemises, notamment une, de mon grand-père Pépé, celle avec laquelle il jardinait. Donc une chemise qui est trouée de partout, pleine de... Enfin, de sueur, elle est brune, le col est assez dégueulasse. Mais moi, j'avais besoin de ça. C'était comme une sorte de cape de protection. Et quand j'écrivais et que j'avais l'impression, grâce à ce plus court chemin qu'est l'écriture, que mon grand-père était dans la pièce, me regardait écrire, validait ou non des propositions, des phrases que j'écrivais, je me disais, mais lui, eux, ne faisaient qu'une action par unité de temps. Et ça, c'est quand même un truc. Il n'y a pas de concept philosophique dans le livre, mais si je dois résumer, ce qui est très difficile de résumer un livre comme ça, mais si je dois le résumer, ce serait notamment attirer l'attention sur ce genre de choses. une simple petite action par unité de temps. Mais qu'est-ce que la vie est plus belle, en fait, quand on s'astreint à ça. Hélas, pour le moment, il faut s'astreindre à ça pour le goûter, pour le retrouver. Donc, voilà. Bon, bref.
Non, mais c'est pas mal. Vous parlez d'Arcontrosa, c'est très bien. Parce que j'avais deux, trois questions sur, justement, d'autres présences à l'œuvre dans le livre. Moi, il m'a semblé, et notamment dans les trois extraits que vous venez de lire, qu'il y avait quelque chose de Quignard.
Oui.
Totalement. Notamment celui fréture, fracture, là, ouais. Quignard aime bien opérer comme ça par généalogie de mots. Donc, on pourrait dire deux mots de Quignard. Et du coup, je suis allé chercher dans le livre qui vient de sortir de Quignard, et il y a quelque chose. Je l'ai ouvert et je suis tombé de suite dessus. Alors, je vous lis cette citation-là, et puis vous me dites. Le passé se transforme immédiatement à l'instant où nous arrivons dans un nouveau lieu. À chaque déménagement, toute notre vie est aussitôt reparcourue par une vague qui l'inonde. Toute mémoire est brutalement réinventée dans ce qui se rappelle au sein de ce que je découvre. Et j'ai l'impression que là aussi, effectivement, dans le livre, l'exploration du passé comme ça, on est dans le changement de lieu en fait en permanence. Et voilà, il y a quelque chose aussi de la redécouverte en Alors, qu'est-ce que vous avez redécouvert ?
Je ne sais pas si il faudrait que je lise tout le texte de Quignard. C'est très difficile. Je ne suis pas sûr de tout comprendre et je ne suis pas sûr si je comprends bien d'y souscrire pleinement parce que je n'ai pas l'impression que chaque investissement d'un lieu nouveau fait que le passé se recompose et que la mémoire se Moi, j'ai une idée très très bizarre, quoi, de la mémoire. J'ai parfois l'impression que on a accès qu'à une toute petite partie de la mémoire, et que des activités comme la marche, l'écriture, peut-être le jardinage, la cuisine, j'en sais rien. Il faudrait chercher d'autres choses, mais nous donnent accès à la part périphérique de la mémoire, qui serait donc de l'oubli, mais encapuchonné, encapsulé dans cette mémoire. À laquelle on n'accède pas facilement. Et moi, je m'aperçois, en tout cas, quand j'écris, que cette poche-là, en réalité pleine de souvenirs, gorgée de souvenirs, mais plus que des souvenirs, parce qu'un souvenir, c'est rien. C'est qu'est-ce que le souvenir fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il agite ? Et qu'est-ce qu'il anime en nous ? Là, je trouve que ça devient très intéressant de pas pour dire que la citation ne l'est pas du tout, hein, du tout, mais j'aime cette idée d'une mémoire oubliée. J'aime cette idée qu'on peut essayer par des petites choses, le travail de l'écriture, de la peinture, d'essayer de réouvrir ou de rouvrir cette poche-là qui est la plupart du temps fermée à double tour parce que la vie fait qu'on doit aller vite. Et qu'on n'a pas de champ pour ça, véritablement. Et c'est vraiment comme ça, en tout cas, que j'ai essayé de travailler le livre.
Alors du coup, ça m'amène... mais c'est super, ça m'amène impeccablement à cette page où vous citez en même temps Pasolini et John Didion. Ouais. Ouais. Vous voulez bien... C'est un moment où j'ai trouvé aussi très fort. Et puis du coup, ce sera l'occasion de parler de l'influence des deux.
Bon, là, je me suis encore moins foulé puisque les pages sont petites, courtes, puis ce sont des citations. Donc, quand il ne restera plus rien du monde classique, quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l'industrie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie, écrit Pasolini. Joan Didion le dit autrement, mais elle le dit aussi. Ça, c'est ma petite phrase. J'étais, pour la première fois, directement confronté à l'évidence de l'atomisation, la preuve que les choses se désagrègent. Si je voulais retravailler un jour, il me faudrait accepter le désordre. Le désordre, l'idée que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais, ajoute Pasolini. Donc l'idée que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais. C'est vrai que ça, c'est quand même le peut-être une des tonalités principales du livre, c'est vieillir, c'est perdre. Pas que, mais c'est voir en tout cas beaucoup de choses. Parfois j'ai cette vision qui est très pessimiste, mais couverte, recouverte et couverte de béton. Quand je me promène maintenant dans les lieux où j'ai grandi, Mais c'est pas du tout de la nostalgie ou une vision biaisée, parce que on peut objectiver tout ça. On le voit sur les cartes. Les champs, les lieux ont été en grande partie dévastés par ça. Et alors bien sûr qu'on peut se dire, Antoine, sois adulte, bienvenue dans le monde. Tout ça est très normal. Hein. Il faut que les gens se logent, il faut produire des voilà. Mais je ne m'y fais absolument pas parce que je pense qu'on pourrait faire mieux, on pourrait faire autrement, on pourrait faire avec autre chose, avec moins de béton, avec davantage, en tout cas avec un souci un peu plus grand quand même de ce qu'on est en train de détruire, quoi. Et donc, toujours, en même temps que la nostalgie est là, il y a quand même un mouvement un peu de colère, quoi, face à ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ici, c'est une page où ils sont cités, Didion et Pasolini. Il y a une ou deux pages où je parle de Thomas Bernhard, tout ça, mais sinon, c'est ce sentiment-là, ce sentiment de colère, d'exaspération, et lui, il écrit extrêmement bien. Je pense, beaucoup écrit là-dessus, sur les banlieues chères à son cœur qui étaient détruites. Et c'est ce qu'on voit en permanence dans les villes. Et moi, pour passer d'une ville à l'autre, là, pour le moment, je vois à quel point, finalement, les centres se ressemblent beaucoup.
Ce qui m'a intéressé dans la citation de Joan Didion, c'est quand elle parle d'atomisation du monde aussi. Parce que là, on voit bien à quel point ce que vous dites là, il y a le recentrement, le resserrement du monde par l'urbanisation, tout ça, mais aussi l'atomisation. Peut-être qu'on gagnerait à s'atomiser un peu plus, à se disperser. Et en même temps, je pense que chez Didion, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aussi cette question d'atomisation à ramener à cette question de l'atome et de la manière dont on est aussi le fruit de la génération de l'atome qui est celle de nos parents.
Oui, je ne sais pas. Il faudrait que je lise des passages pour rebondir là-dessus, parce que je ne veux pas théoriser trop. Mais le sentiment que j'ai, il est d'ordre presque granitique, quoi. J'ai l'impression que on a connu. Alors c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler sur l'étymologie, sur ce fractura, parce que tout le livre suit le fil de cette faille, de cette fracture, et j'essaye de voir quand elle a eu lieu, à la fois pour nous tous. Évidemment, je parle de la chute du mur de Berlin, et peut-être que ça, à ce moment-là, les choses s'accélèrent, mais c'est aussi, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, par des détails, le fait que ma grand-mère, qui était petite épicière dans le village, époque où il y avait d'ailleurs deux commerces, un commerce pour les rouges, les socialistes, et un autre pour les chrétiens. Ma grand-mère tenant, évidemment, si vous lisez le livre, parce qu'on est une famille assez chrétienne, croyante, tenait le magasin donc pour les chrétiens. Et dans les années, à la fin des années 70, déjà 70, on lui a dit, voilà, André, si vous voulez conserver votre magasin, il faut que vous fassiez installer un monte-charge automatique pour que les marchandises soient plus rapidement dans les rayons, pour qu'on gagne du temps. Et donc ma grand-mère a refusé, parce que c'était une installation qu'elle devait faire à ses frais. Elle a refusé, et après ça a vu le jour ce que j'appelle dans le livre l'abominable carrefour de Remouchamps, un petit lieu près de chez moi. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et le livre ne cherche que qu'à suivre ce fil, et on passe parfois du bon côté, du mauvais côté, du côté d'une atomisation qui serait vécue douloureusement, avec l'impression qu'on s'est non seulement atomisé, mais éparpillé, perdu, qu'on ne se touche plus, qu'on ne s'écoute plus. Et puis parfois, du côté, peut-être l'avant-fracture, un moment où j'ai l'impression qu'on était, oui, en tant que famille, en tant que société, ça peut sembler peut-être même un peu réac, hein, ce que je dis là, je m'en rends compte en le disant, mais je ne pense pas que ce soit l'idée, mais on formait un tout. J'ai le sentiment d'un truc granitique, je ne peux pas le dire autrement, et que ça s'est émietté, hélas, mais pas définitivement. Le simple fait de le dire peut-être permettre de repenser la chose autrement. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'idée préconçue, mais j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est allé trop loin dans l'atomisation. vraiment.
Ouais.
À mes yeux, elle n'est pas tout à fait souhaitable.
On va rester sur le... Parce qu'en même temps, l'atomisation, c'est aussi la forme que prend le livre, en fait.
Ah, c'est vrai. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est bien, c'est très bien vu, d'ailleurs. Oui, oui. Mais ce sont des fragments.
Ouais.
Des fragments que j'essaye de capter selon ma capacité quoi à y être disponible. La mémoire elle se donne pas à revisiter comme ça massivement d'un coup. C'est très compliqué de. On ne choisit pas ce dont on se souvient. Ça revient ou ça ne revient pas. Et ici j'ai vraiment essayé de faire l'exercice à la différence des textes que j'écrivais avant où j'avais la volonté d'exprimer quelque chose, ça forcément toujours, mais il y avait une fin. Je savais vers quoi j'allais. Et c'est à la fois beaucoup plus facile et un peu pénible de savoir où on va ici. Je ne voulais pas être là-dedans. Et donc, j'ai laissé les choses remonter. Très naturellement, j'avais un petit carnet, j'écrivais les choses telles qu'elles arrivaient, telles qu'elles m'arrivaient. Et c'est vraiment plus tard, au moment où j'ai eu tous ces fragments, ces atomes, sur un carnet que j'ai détaché les pages et que j'ai commencé à travailler à une idée de voilà, un montage. J'ai monté le livre comme si j'étais... D'ailleurs, je me suis souvent dit que j'aurais... C'est parce que je ne suis pas du tout familier, je ne connais pas du tout le langage des images, mais j'ai beaucoup pensé à Raymond Depardon en écrivant ce livre qui a fait des documentaires magnifiques qu'il appelle « Profil paysan ». Et il parle, sa caméra se balade, vous avez sans doute vu, dans les Cévennes, et on voit des personnages dont on se disait qu'ils avaient disparu, à tout jamais. Et par le miracle de ces images, tout à coup, on les voit, on se dit qu'ils existent, et c'était pas il y a tant de temps que ça. Ils sauvent quelque chose d'un oubli et d'une accélération. Je n'ai pas ce langage-là d'expression, mais je pense que c'est un livre pratiquement documentaire dans ce sens-là. Et alors, comment est-ce qu'on le monte? Comment est-ce qu'on montre les images? Comment est-ce que lui travaille? Je n'en sais rien. Mais ce que j'ai essayé d'éviter, c'est de le monter de façon artificielle, justement en essayant de gommer les silences. Il y a des moments où je crois que les textes s'enchaînent de façon très évidente, très fluide, et parfois il y a des coupes. Et je tenais à ça pour marquer un rythme et pour essayer de faire en sorte que chaque vignette, chaque instantané soit le plus évocateur possible.
Et en même temps, il y a un moment où vous écrivez, ça m'a beaucoup interrogé, et on revient vraiment sur la question de l'image, quels sont les paysages du fond de la parole? Que voit-on qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler?
Ouais. C'est un petit texte, oui, que moi, je disais tout à l'heure. Ouais.
Ouais, moi, je me suis dit, là, c'est la poésie, en fait. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est le... Enfin, non, c'est le résultat de ce qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler de l'image manquante, c'est l'expression poétique.
Absolument, absolument. Et puis, je souffre beaucoup de cette idée, déjà qu'un auteur doive apparaître, je trouve ça parfois problématique, mais que... Italo Calvino dit ça, je ne sais plus où il dit ça, dans un entretien. Il dit, si vous voulez retirer de la puissance à la langue d'un écrivain, placez-le sur un plateau de télévision, parce qu'alors vous le clouez à sa visibilité, à une image. Et je pense, au-delà de la question de l'écriture de l'écrivain, qui n'est pas en soi très intéressant, mais c'est comment aujourd'hui ne compte que ce qui est visible. J'ai l'impression que... Et on le voit d'ailleurs, les médias qui prennent de plus en plus d'importance, ce sont des formats très rapides avec de l'image. Et le texte s'incruste dans l'image. Si on regarde les vidéos, par exemple, de brutes, j'en ai fait une la semaine passée et j'ai parlé 1h30, il reste 9 minutes. Et quand la vidéo s'affiche, il y a déjà le sous-titrage qui apparaît. Pour essayer d'hameçonner le surfeur, enfin, oui, voilà. le surfeur. Et alors, Par contre, je trouve que c'est très très bien fait, très très bien fait, mais je souffre de ça. Je pense qu'on est constitué aussi, on parle d'atomes, l'atome on ne le voit pas, et on est constitué d'atomes absolument invisibles, de voix de nos ancêtres, de la manière, on en parlait tout à l'heure avec Hélène, votre collègue, de la manière dont une grand-mère pouvait nous gratter le dos, ça ne se voit plus. On ne peut que le dire, on ne peut qu'essayer de le dire avec des... Mais quand tout est réduit à un langage de l'image, du visible, moi, ça me fait terriblement souffrir parce que je pense que l'invisible est très important. Et dans le petit texte que j'ai lu tout à l'heure, qui se termine par « Notre vie est coupée en deux, visible et invisible ne communiquent plus », c'est l'idée aussi que dans ces villages, au début des années 80, et avant encore plus, il y avait par exemple des guérisseuses ou des guérisseurs. Ma grand-mère en était une d'ailleurs. Et c'était converser avec la part d'invisible, avec la part superstitieuse, avec la part de croyance. Et moi, je trouve ça formidable. Parce que je crois qu'on n'est pas vraiment humain si tous les jours, on ne se baigne pas dans ce grand fleuve d'atomes invisibles qui fait ce qu'on est, qui fait notre charme. C'est là que la poésie prend sa source. C'est là que les plus belles idées prennent leur source. Et c'est là qu'on peut continuer, autant que faire se peut, de jouer notre rôle d'humain le mieux possible ou le moins mal possible, je crois. Mais à ne donner de poids et de valeur qu'aux choses visibles, je pense qu'on est en train de rater quelque chose de primordial. À nouveau, je tourne autour du sujet, mais c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça le lit du texte et son fond, son substrat.
Et en même temps, vous dites que l'écrivain, dans votre pratique d'écriture, vous avez besoin aussi d'une mise à distance du monde.
Ouais. Oui, parce que je crois que si on veut être dans tous les combats, même dans les combats politiques, parfois je me dis, mais avant de revendiquer quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas avoir passé un certain temps avec soi, seul, comme Pascal le disait, recueilli un moment en soi-même, une demi-heure, une heure, pour savoir ce qu'on sait, pour sentir ce qu'on sent et ne pas être trop influencé par l'air du temps, tout ça. Donc, on peut penser que c'est de la misanthropie de dire non, moi je suis quelqu'un qui a besoin de m'enfoncer dans les bois 2 heures par jour et de ne pas voir un seul humain. C'est vrai, je fais ça, c'est magnifique. Et faire le tour de soi-même sans voir de vie humaine, c'est formidable. Mais faisant ça, j'ai l'impression que je me donne la possibilité, quand je sors de ces bois, de rencontrer vraiment les gens. Parce qu'il y a une place pour eux, il y a une place en moi, une vraie place. Alors peut-être que je suis très limité dans mes moyens, mais je ne suis pas certain qu'on puisse être vraiment présent ou en tout cas attentif à l'autre quand on est constamment dans ce geste-là, dans un mouvement centrifuge. Enfin, j'y crois pas. Mais c'est vrai qu'à nouveau, quand on dit ça, ça passe pour de la misanthropie. Pas du tout. Moi, je déteste l'homme autant que je l'adore. Voilà, c'est... Ça dépend des heures de la journée.
Il y a aussi quelque chose, et vous revenez à plusieurs reprises, et notamment dans les épisodes où vous êtes vraiment tout enfant, c'est un moment où vous n'avez pas vous avez l'usage de la parole, mais vous ne savez pas écrire, mais les mots sont déjà là. Je veux dire, il y a quelque chose qui... l'écriture n'a pas été une découverte, parce que les mots étaient déjà là.
Ouais, c'est vrai.
En vous.
Oui, c'est vrai que je me suis rendu compte très, très jeune, très vite, que... Je ne crois pas du tout en l'idée d'une prédestination, pas du tout, ce serait terrible, quelqu'un qui prend la plume en disant « Regardez comme l'enfant que j'étais était déjà prédisposé à venir chez Ombre Blanche et parler de l'écriture ». Ça, ce serait terrible. Mais l'enfant presque autiste que j'étais, je crois que si je naissais ou je renaissais aujourd'hui, j'aurais toutes sortes de diagnostics qui tomberaient sur moi, celui-là notamment. C'était pas le cas à l'époque, et peu importe, mais j'ai compris très vite que quand je voyais mes amis jouer ou quand je les voyais agir sur la matière, moi je me disais, c'est marrant, c'est pas exactement ça qui moi m'intéresse. Par contre, je les regardais dans la cour de la ferme, penchés sur le moteur, détraqué des mobilettes, des motos, des tracteurs, tout ça, Et je regardais leurs mains et je me disais, on dirait des mains de chirurgiens du cœur qui opèrent à même cette matière et qui sont capables de guérir ces choses que moi, je ne connaissais pas. Et ce qui me fascinait, c'était les mots. Quand ils disaient ça, c'est un joint de culasse. Le mot joint de culasse rentrait en moi et me rendait immédiatement heureux. Ça, c'est un vilebrequin, immédiatement heureux aussi. Déjà alors, j'avais l'impression que les mots contenaient une énergie qui, moi, me faisait beaucoup de bien, voilà, parce que j'étais un enfant asthmatique. La ferme, ce n'était pas l'endroit où je pouvais normalement aller à cause des foins et de la poussière qu'on y trouvait. Donc, ce n'était pas mon environnement de prédilection, mais j'ai adoré être là.
Il y a un moment, vous évoquez dans les jeux d'enfance les jeux avec des figurines, les Playmobil. Et là, je crois qu'effectivement, c'est mon cas. C'est l'essence. Mais j'ai l'impression que l'essence même de ce que je suis comme lecteur, c'est parce que quand j'étais gamin, je me faisais fabriquer des histoires avec des figurines. Et peut-être que c'est là aussi que ça vient puiser.
Je crois. Je pense.
Je veux dire l'attrait de la fiction.
En tout cas. Ben, l'idée de s'inventer des mondes, des personnages, d'être soi-même, mais être soi-même, ça veut dire parfois aussi être plus que soi-même ou moins que soi-même, ou être nombreux, ou être différent. Et l'enfance, c'est ça naturellement. Quand je lisais tout à l'heure ce truc où je disais « je vais jouer », mais c'est jouer pas seulement jouer au Playmobil, c'est jouer à être quelqu'un d'autre dans un environnement aussi minuscule, presque insulaire, parce qu'on n'avait pas de contact avec le monde extérieur, très très peu, vraiment très peu. Et je ne grossis pas le trait en disant ça. Pour moi, le fait de jouer avec des Playmobil, d'avoir une poupée que j'appelais Mary, parce que maman était prof d'anglais néerlandais, c'était une ouverture d'ailleurs ça, c'était déjà une façon de peut-être d'écrire, de commencer, de et puis d'adresser des cartes postales aussi à autrui. Parce que quand on joue, peut-être que c'est une façon d'appeler à nous toutes les personnes qu'on ne voit pas, des cultures différentes, des gens qui vivent différemment. J'en ai souffert sans en souffrir de ça, mais c'est vrai que ces enfances insulaires, ces enfances coupées de tout, alors probablement qu'elles génèrent une capacité à imaginer et à creuser l'oubli et à y trouver et à y trouver des choses intéressantes. Mais quand même, il n'y avait rien, il n'y avait pas de divertissement. Le mot divertissement n'existait pas. Donc voilà, j'aime à penser que c'était un peu ça, le jeu. Une manière de faire rentrer dans ma vie un peu de ce qui ne s'y trouvait pas.
On pourrait évoquer aussi la figure d'altérité qu'il y a avec le frère Charles.
Ah oui.
On a l'impression que c'est un jumeau.
C'est un jumeau, il est plus âgé, mais ouais. Il a 17 mois de plus. Mais ouais. Oui, c'est un jumeau. Là aussi, ça rejoint le thème de la fracture, plus que de la fracture, même c'est une sorte de partie de moi-même qui n'est plus en moi-même et qui est là, faisant ce qu'il a à faire, vivant la vie qui est la sienne. Mais moi, je ne m'en suis jamais relevé, en fait, de ça. J'ai l'impression que peut-être que ce qu'on se dit depuis le début, cette idée de fracture, parfois de trouble identitaire, c'est très lié à ça. Mais je crois que ce n'est absolument pas grave et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des enfances qui étaient très intenses, très connectées, avec un frère, avec une sœur, avec un frère, une sœur. Et tout à coup, ça n'existe plus, soit parce qu'il y a un accident, soit parce que la vie fait que. Et est-ce qu'on se relève jamais vraiment tout à fait de ça ? J'en suis pas sûr. Moi, en tout cas, je sais que tous les matins, je me lève avec du manque. Et que, quelque part, l'écriture, c'est peut-être le fruit du manque. Et c'est tout. Ça a son espèce de croissance verte, visible, comme une plante qui sort de ça. Mais ce n'est que ça, la manifestation visible d'un état de manque qui n'est pas grave, mais qui est très, en tout cas qui est très humain, qui nous constitue.
Mais on voit bien dans les pages du plus grand chemin à quel point l'écriture est une énergie.
Oui.
En soi.
Oui, oui.
Enfin, j'ai eu ce sentiment-là. Que c'est une énergie en soi que vous captez et que vous réinjectez dans le...
Ouais.
Mais je veux dire le sens même de l'élan de l'écriture.
C'est vrai. Ben, c'est... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me lève le matin avec de grandes facilités à vivre. Mais l'écriture m'a donné ça de prodigieux. J'ai envie de lire une lettre. C'est une lettre très intime. Il y en a deux qui sont, à mon avis, importantes dans le livre. Une écrite par ma mère quand j'ai 20 ans ou 18, je vérifie maintenant. Et une écrite par mon père, plus ou moins à la même période. Et dans un sens, je crois que ce livre, c'est la réponse à ces deux lettres, avec 20 ans de retard, de délai. Le temps que j'atterrisse, le temps que je comprenne ce que eux ont essayé de me dire quand j'avais 20 ans et qu'ils ont, je crois, très très bien saisi. Alors, il faut que je parvienne à retrouver cette lettre. Je crois que c'est à la fin. Cette crainte que je ne sois pas heureux a toujours habité maman. À 18 ans, elle posa sur ma table ce mot que je relis souvent. Moi, je pense qu'elle aurait dû écrire. Toine, en parcourant ta lettre d'hier soir, j'ai été touché par ta grande et belle sensibilité, par le raffinement de ton écriture, non, de ton style, et aussi par la confiance que tu me faisais en me la donnant à lire. Sache que mon plus grand désir est ton bonheur, ou du moins une approche du bonheur, son apprivoisement. Nous ne sommes pas nés heureux, nous avons appris à l'être. Cette petite phrase, je te l'écris parce qu'elle m'aide. J'aurais voulu en profiter plus jeune, car plus on s'entraîne tôt à être heureux, plus, je crois, on expérimente des moments de bonheur, plus ça devient une façon de vivre. Je te souhaite le meilleur. Ceci n'est qu'une modeste piste, tu en fais ce que tu veux, fais confiance à la vie, à tes 18 ans et à toi, Antoine. Maman savait ce qu'elle disait, elle qui a toujours été une grande nostalgique, alors que papa était plutôt une flèche tendue vers une succession de cibles, de buts. Quant à moi, je m'agite comme je peux entre les deux, avec les armes et les blessures des deux. Voilà. Et je trouve ça prodigieux que dans une famille où le silence était à ce point présent, et peut-être d'ailleurs parce que le silence était à ce point présent, que j'ai retrouvé, je les avais oubliés évidemment. Et c'est aussi ça l'intérêt de faire ce travail-là. Que ça aboutisse, que ça devienne un livre ou pas, à la limite, c'est même pas tellement la question, c'est se dire que ces choses qui étaient si importantes, parce que je me souviens évidemment du moment, mais je l'avais perdu de vue. Et de comprendre qu'une maman, dans une famille très avare, très, très avare de mots, prenne le temps de m'écrire ça en me disant, sans me le dire, je comprends. Je comprends ce qui te travaille, je comprends ce qui t'inquiète, je comprends ce qui t'agite. Voilà. Et autant j'ai écrit par le passé des livres qui étaient plus durs, où les figures maternelles, paternelles étaient parfois plus... c'était peut-être moins bienveillant, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'était plus dur, en tout cas plus violent. Ici, et ce n'est pas le simple fait d'avoir retrouvé ces lettres, c'est que je me suis dit, je leur dois beaucoup. Et j'avais envie simplement de glisser ça dans le livre comme une réponse... Enfin, le livre est une réponse à ça, notamment.
Ce serait beau de s'arrêter là, mais non, on va essayer de faire quand même circuler. Non, oui, vraiment, de faire quand même circuler le micro si vous avez un commentaire, une question, un sentiment de lecture à livrer à Antoine Wauters. Non, personne.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est d'abord félicitations, vous êtes sur la liste du Médicis.
Merci.
Alors les prix, on s'en moque, mais bon.
Ça peut changer la vie d'un livre, c'est sûr.
Ouais. Moi, je suis heureuse pour vous. Et comment se fait-il qu'en quatrième de couverture, il y ait le mot roman, alors que ça n'est pas ?
Vous avez raison.
Et ensuite, quand est-ce que vous avez su que ben il n'y avait pas d'autres fragments à ajouter ?
Ah ouais.
Voilà, parce qu'un roman, on sait. Ouais. Enfin, vous l'avez dit pour Mahmoud, ouais. Vous saviez vers quoi vous alliez tendre, là où il fallait aller. Et là, qu'est-ce qui vous a dit ? Ben voilà, c'est mon dernier fragment.
Je ne pense même pas que je suis arrivé au bout. Vous avez raison, c'est vrai que je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait deux fois plus de textes au départ dans la version de travail. Et ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure au démarrage de la discussion, c'est que j'ai essayé d'avoir pour fil conducteur, vague mais quand même, l'idée que je ne parlerai pas beaucoup de faits. Et que je voulais davantage creuser la dimension intérieure, la dimension du ressenti. Donc, ça m'a permis de supprimer un certain nombre de fragments qui me semblaient bizarrement, c'était des fragments plus imagés, plus visibles, plus voilà. Mais je les ai retirés. Et puis, il y a aussi des passages que j'ai trouvés impudiques. Ici, c'est intime, mais je ne pense pas que je dépasse. J'accepte tout, je peux en parler. Mais il y a eu parfois, je crois que parce que je doutais aussi, je me suis dit peut-être que tu devrais donner, ça sont vraiment des conceptions stupides, donner aux lecteurs et aux lectrices quelque chose qu'ils seront plus à même de recevoir et donc coller davantage à l'air du temps. Donc en parlant d'expériences douloureuses que j'ai connues dans l'enfance, sur des sujets que je n'ai pas envie d'évoquer ici, mais qui s'y sont retrouvés. Et je me suis dit en relisant, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas du tout besoin de parler de ça, ça t'appartient. Voilà. Et donc ça m'a permis d'enlever. Après, c'est vrai que régulièrement, dans les trains, pour le moment, je prends des notes. Je me dis, bon, il n'y aurait évidemment pas de deuxième volet, je ne crois pas du tout. Mais, ou peut-être quand... si, voilà, dans 50 ans.
Le chemin le plus long.
Oui, je ne sais pas ce qu'il en restera.
On va passer à la dédicace. Antoine, merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas, merci.
Le roman d'Antoine Wauters, Le plus court chemin, est publié aux éditions Verdier. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée jeudi 21 septembre 2023 à la librairie Ombre Blanche. Antoine Wauters est aussi l'auteur aux éditions Verdier de Mahmoud ou la montée des eaux, Pense aux pierres sous tes pas, Moi, Marthe et les autres et nos mères. Réalisation et mise en onde, Radio-Radio, en partenariat avec Radio-Radio Plus et Radio-Terre.